Je savais pas trop quoi vous apporter ce matin, et puis je me suis dit, finalement, quand on ne sait pas, ben, on a toujours besoin d'être encouragé. Et je me suis posé la question, peut-être que je vous en avais déjà parlé de ce sujet, mais le fait d'être aussi encouragé nous-mêmes et d'encourager les autres. C'est pas très français d'encourager les autres, hein. Et le sens du verbe encourager, c'est donner du cœur. Donc en fait, c'est permettre à quelqu'un d'investir pleinement la situation dans laquelle il ou elle se trouve, même si elle a l'impression de se trouver devant une montagne infranchissable. Parfois, on est devant des montagnes dans notre vie, et d'avoir quelqu'un qui vous encourage, ça fait du bien, ça donne du cœur à l'ouvrage, hein. Quelqu'un a dit un jour qu'un mot bienveillant, joyeux, encourageant n'est pas un péché. Il peut aider l'homme à se tenir dans la joie devant la face de Dieu. C'est pas un péché. C'est important d'être un encouragement pour les autres. Notre culture, parfois aussi notre éducation, ne nous pousse pas à faire des éloges aux autres, hein. Et certaines personnes confondent l'encouragement et la flatterie. Et la plupart du temps, les éloges que nous faisons de quelqu'un sont funèbres, épitaphes sur une tombe, discours élogieux au cimetière. Donc, est-ce qu'il faut être mort pour pouvoir avoir de la reconnaissance, être aimé, apprécié, encouragé? Est-ce que s'il faut être dans un état où on n'a plus rien à faire sur cette terre pour qu'on puisse expérimenter, entre guillemets, la reconnaissance? Alors, moi je me pose la question parfois, je me dis, est-ce que je suis tellement critique vis-à-vis des autres que je ne peux pas voir le bon côté des gens? Est-ce que je suis à ce point critique pour ne pas voir les bonnes choses chez les autres et de voir toujours les mauvaises choses? C'est vrai, hein? J'ai tendance à être comme ça. On a tous cette tendance-là. C'est humain, c'est même français, hein, comme je disais au début. Alors, je trouve que c'est difficile de trouver des personnes qui veulent vous aider, vous motiver, vous encourager sincèrement. Pourtant, l'encouragement peut changer la vie de quelqu'un. J'ai été très encouragé durant ces dernières semaines. La semaine dernière, j'étais en Alsace pour la retraite France Évangélisation. Beaucoup de réunions. On a accueilli une vingtaine d'associés, de jeunes. On a trois jeunes qui rentrent à France Évangélisation en tant qu'évangélistes. Moi, je commence à me voir vieux là-dedans, dans cette histoire-là, patriarche. C'est marrant parce que finalement le Seigneur nous demande. Oui, et puis j'ai la barbe en plus, là. Ça va très bien, hein? J'ai la gueule de l'emploi, comme on dit. Et c'est bien d'encourager, franchement. Et des fois, on voit des jeunes, on se dit, oh, est-ce qu'il va y arriver? Quand même, évangéliste, prédicateur, et puis responsable d'église, ou est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que il est armé pour ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et j'avoue que. Des fois, je ne suis pas positif et j'ai besoin de me remettre devant Dieu et de me dire, mais attends, le Seigneur, il s'occupera de lui, comme il s'est occupé de moi, comme il s'occupe de chacun de nous, hein. Et parfois, l'idée de la réussite que nous avons, c'est pas la bonne, hein. Et bon, bref. Dans son livre « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie », Neil Anderson affirme qu'un enfant reçoit 10 remarques négatives pour une remarque positive dans une famille moyenne, hein. Sept remarques négatives pour une remarque positive à l'école. Selon cette même étude, nous apprenons qu'il faut quatre remarques positives pour neutraliser les effets d'une remarque négative. T'imagines? Quatre remarques positives pour neutraliser quelque chose de négatif. Une chose négative. C'est quand même, hein? Moi, ça m'interpelle, hein. J'ai une illustration. Bernard est âgé de 53 ans. Lorsque j'étais enfant, dit-il, je me suis rapidement retrouvé en institution. Ma mère est décédée lorsque j'étais tout petit et mon père ne pouvait pas assumer mes frères et sœurs et moi en même temps. À l'école, j'avais des difficultés et rapidement, on m'a laissé de côté. Pourtant, je m'en suis sorti. Et vous savez pourquoi? Parce que lorsque j'avais 14 ans, mon professeur n'a pas voulu croire à cette étiquette qu'on m'avait collée. Elle a cru en mes capacités, elle me l'a dit. Je sais que tu es capable de réussir et je vais t'aider pour que tu décroches ton examen. Cette phrase m'a porté jusqu'au jour de mon examen et encore aujourd'hui. Et cet examen, je l'ai décroché. Je crois au pouvoir de l'encouragement. Ça peut vraiment changer une vie. Et on a beaucoup de mal dans notre culture à nous encourager. Nous cultivons le négativisme. D'ailleurs, la culture, on pourrait appeler ça presque la culture du manque. Toute la publicité, toute notre société est fondée sur le manque. Tu n'as pas ceci, donc tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas réussir sans le dernier high-tech objet. C'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le diable a fait croire à Adam et Ève qu'il leur manquait quelque chose. Vous amenez vos enfants, vous passez une après-midi de détente. C'est un calvaire, parce qu'il voudrait acheter ceci, parce qu'il voudrait acheter cela. C'est une catastrophe. Et finalement, on se rend compte qu'on est on baigne dans un système qui nous met devant les yeux ce que nous n'avons pas. Comme si notre vie était fichue parce que nous n'avons pas ceci ou cela. Toute la publicité est fondée là-dessus. Le premier mensonge. Alors, dans l'Église, parfois, aussi au niveau de l'encouragement, on se plaint que les gens ne s'engagent pas. Et lorsqu'ils le font, on commence à relever tous les défauts. Hein? On prend une page et puis on commence à mettre 1, 2, 3, 4, etc. Et le problème, c'est qu'on se plaint parfois d'eux jusqu'à totalement les décourager. Je dois moi-même lutter contre ce fonctionnement. Pas uniquement dans le cadre de l'église locale, mais avec ma famille, avec mes enfants. Si je me plains de leur manque de participation à la vie de famille, je ne dois pas me plaindre aussi lorsqu'ils ne font pas les choses exactement comme je les aurais faites moi-même. C'est exactement pareil dans le cadre de la mission. Ces jeunes arrivent. Ah, mais c'est sûr, ils n'ont pas la même façon de s'exprimer, ils n'ont pas la même manière de s'habiller, ils n'ont pas la même manière d'envisager leur vie, etc. Mais qu'est-ce que j'attends qui me ressemble à moi? C'est comme si Yves Perrier, vous avez connu Yves Perrier, non? 45 ans de ministère en tant qu'évangéliste. C'est comme si Yves Perrier, il aurait voulu que je sois comme lui. C'est mon mentor, mais je ne suis pas Yves Perrier. D'ailleurs, je ne serais même pas rentré dans ces costumes. Hein. Donc, j'attends certaines choses des autres. Et vous savez, en France, la première cause qui pousse les pasteurs ou responsables d'église à démissionner, c'est le découragement. Première cause. Ce n'est pas les problèmes de famille. Hein. Ce n'est pas les problèmes de couple. Ce n'est pas les problèmes de péché. Découragement. Alors, on va s'arrêter un instant sur un des disciples de Jésus, Barnabas. D'ailleurs, son nom signifie « fils d'exhortation », « fils de l'encouragement », « fils de la consolation ». Paul, Barnabas et son cousin Jean-Marc partent pour un voyage missionnaire. Suite à certaines difficultés, Marc abandonne. Était-il pas assez armé, etc. On ne sait pas. Après l'implantation de plusieurs églises, Paul et Barnabas reviennent à Antioche. Et après quelques temps, Paul désire faire un second voyage missionnaire, acte 15. Deux hommes spirituels, Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce. Qui a parlé plus de la grâce que Paul? Il n'y en a pas. Jean. Et Barnabas, le fils de l'encouragement. Ils vont être en désaccord tous les deux. Je ne parle pas de conflit, hein. Je préfère employer le mot désaccord. Ils ne sont pas d'accord. En fait, ce désaccord peut se résumer à une seule question. Faut-il donner une seconde chance à Marc? Pour Paul, non. Pour Barnabas, oui. Qui a raison? Qui a tort? Je sais pas. C'est ça qui est fou avec la Bible, c'est que parfois, on n'a pas les réponses. On voudrait avoir les réponses, mais là, on n'a pas. Et certainement, Dieu s'accommode des deux réponses. Impossible de dire qui a raison, qui a tort. Il aurait fallu être là pour pouvoir peser la situation. Et encore, on n'est pas infaillible, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Marc nous a laissé on va dire, un bel héritage. Pas la lessive, hein, c'est Marc, mais l'évangile de Marc. Hein. Il nous a laissé l'évangile de Marc. Je rigole. La lessive Saint-Marc, ça fait rigoler Gabi. Et plus tard, Paul reprendra Marc avec lui. Et dans ses lettres, il faut remarquer que Paul n'a jamais critiqué Barnabas. Jamais. Aucun rapport avec la seconde lettre à Timothée, où c'est pas une critique, mais quand même, il dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. » Paul n'a pas rencontré que Barnabas, n'est-ce pas? Peut-on dire que Paul a implanté des églises, Corinthe, Philippe, et que Barnabas a implanté des hommes? Parce que Barnabas a implanté Paul. Hein. C'est lui qui a encouragé Paul au départ. C'est marrant comme les choses sont étonnantes. C'est lui qui a pris Paul et qui l'a mis en avant. Acte 9, on le lit, versets 26 à 26, 27. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saül, donc Saul, l'apôtre Paul, hein, plus tard, tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient. Parce qu'il persécutait l'Église au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne croyant pas qu'il fût un disciple, les gens ne croyaient pas qu'il était disciple, c'est pas possible ce gars-là, il nous a persécutés, il est à l'origine de la lapidation d'Étienne, etc. C'est pas possible, on ne peut pas faire confiance à un gars pareil. Et qu'est-ce qu'il fait? Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur. Il a pris et il a expliquer lui qu'est-ce qui s'était passé. Il a mis en avant Paul. Les autres disciples avaient peur de Saül, le critiquaient. Ils avaient des préjugés, mais pas Barnabas. Le prophète Ésaïe présente le Messie, le messager de Dieu, de la façon suivante. Il dit: un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur un ouï-dire, un entendu, un ouï-dire, ce que j'ai entendu. Mais il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il n'adressera pas de reproches sur la base de ce qu'il a entendu ou sur une apparence. L'amour encourage. L'amour bannit la crainte, 1 Jean. Saül n'est plus seul contre tous. Il est plus seul contre tous. Il y a Barnabas avec lui. Il n'est plus tout seul en train de faire front à tous ces chrétiens qui sont en train de dire: ah non, 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 pas lui. Il y a quelqu'un qui est à ses côtés. Il y a quelqu'un qui prend le risque de se mettre à côté et de dire: non, je ne suis pas d'accord. Et Dieu va se servir de Barnabas pour que Saul devienne Paul. Il va se servir de Barnabas afin que Saul puisse s'intégrer à l'Église et qu'il puisse aller plus loin, qu'il devienne ce qu'il doit être, l'apôtre Paul. J'ai envie de devenir un Barnabas pour les autres. Et c'est notre rôle d'aider les autres à entrer dans la famille de Dieu, de les exhorter, de les guider, de les accueillir, de les aider à s'intégrer, à progresser, à s'enraciner en Jésus-Christ. Alors ces personnes peut-être sont parfois sensibles, affaiblies, fragilisées, découragées. Peut-être que certaines de ces personnes sont aussi, elles arrivent avec un bagage d'éducation, un bagage affectif, un bagage intellectuel, un bagage social, je ne sais pas, quelque chose qui va les bloquer aussi dans la vie, quelque chose qui va les freiner. Et nous, on est là pour les aider, un peu comme la voiture quand elle est enlisée, vous savez, dans le sable, on met des cales dessous les roues pour, au niveau des roues du moteur, quoi. Pour faire avancer, pour faire sortir, pour désenliser. Nous avons des frères et sœurs enlisés dans certaines difficultés qui sont liées à leur passé. J'ai moi-même, je suis parfois enlisé dans mon passé, dans mon caractère, dans ma façon d'être, dans ce que j'ai acquis. Vous savez, Adam et Ève, les conditions d'Adam et Ève étaient fantastiques. Hein, et pourtant, ils se sont loupés. Hein. Mais les conditions dans lesquelles ils étaient, ils avaient toutes les bonnes conditions pour ne pas pécher. Et pourtant, ils ont péché. Donc je me dis, ben, nous, dans quelles conditions nous sommes parfois, j'essaye pas de trouver une excuse au péché, hein, mais quelque part, hein, notre condition parfois dans certains domaines de notre vie n'est pas si évidente que ça. Mais le Seigneur est bon. Alors, je pense qu'être conscient de ses échecs, c'est tellement important. Dieu s'est servi de Barnabas parce que son cœur était disposé à écouter, à aimer et à aider. Dans Actes 4, 36, Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, même Barnabas. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Dès sa conversion, Barnabas a pris conscience des besoins des autres. Et quand on étudie un peu le but de l'église locale, il y a deux choses qui ne peuvent être dissociées l'une de l'autre, hein, l'annonce du message de l'évangile et le vécu de l'évangile. Hein. Et l'encouragement fait partie du vécu. C'est un échantillon de Jésus. Quand tu encourages quelqu'un, tu donnes un échantillon de Jésus. Tu vois, quand tu vas acheter du parfum, on te donne des échantillons, ben là c'est pareil. Tu es un disciple de Jésus, quand tu encourages quelqu'un, tu lui donnes un échantillon. Parce que Jésus, il est l'encouragement lui-même. Alors, l'encouragement, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la bienveillance. Hein? Alors, c'est vrai que nos relations fraternelles deviennent parfois routinières, banales, cordiales, hein? Mais parfois, ça manque d'un enrichissement encourageant, un enrichissement qui nous enrichit, un encouragement qui nous enrichit, qui nous fait du bien, qui nous fait grandir. Dans Acte 11, au verset 19, il est dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Car, et là ça me plaît, c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Homme de bien. En grec, c'est agathos. Ça signifie un homme de bonne nature, un homme utile, un homme salutaire, un homme plaisant, un homme agréable, distingué, droit, honorable, plein d'Esprit Saint, abandonné au contrôle du Saint-Esprit. Et c'est vrai que ces deux éléments font de Barnabas une personne capable de consoler, relever, soutenir, exhorter. Et Je pense que Barnabas croyait plus en ce que Dieu était capable de faire que ce que lui-même était capable de faire. Le problème, c'est que souvent, on pense que à nos capacités, aux capacités des autres. Je vais vous donner l'exemple des nouveaux évangélistes de FE. Il y a un équilibre à avoir entre les capacités des gens et ce que Dieu peut faire. Alors, c'est vrai que on a un secrétaire général qui est fabuleux, Raphaël, c'est une tête. Pouf! C'est une tête. Apologète, visionnaire, impressionnant. Et c'est vrai que toutes les personnes qui arrivent, enfin pas toutes, heureusement, quelques-unes arrivent, ils ressemblent beaucoup. On a eu un jeune, Alexis, à peu près une vingtaine d'années. Il nous a fait un topo de sa conversion et la manière dont il s'est donné à Dieu. Bon, c'est un jeune qui est en train qui pourrait facilement faire un doctorat en philosophie. C'est simple, il allait dans les églises et il cassait les chrétiens. Il s'asseyait à côté et il prenait tout ce qu'il disait. Et puis, hop, une petite question par-ci, une petite question par-là. Et ça le faisait bien rigoler. Jusqu'au jour où il a pris les choses en main, il a décidé de lire la Bible pour trouver de quoi détruire la foi des chrétiens, mais il s'est aperçu que finalement, ça tenait vraiment la route. Un gars qui est fantastique. Je pense que je l'aurai pendant une semaine, j'ai déjà réservé, pendant une semaine, on l'aura ici à Grasse. Il est absolument phénoménal. Après, on en a d'autres, hein. On a d'autres personnes qui sont un peu plus terre à terre, qui ont bac moins, pas bac plus, mais bac moins. Alors, on en a un qui est évangéliste parmi les Ménonites, l'église Ménonite, qui est vraiment, vraiment un chouette gars. Mais qui, voilà, mais Dieu se sert des deux. Dieu se sert des deux. Et ça, c'est fabuleux de voir que finalement, ben, Dieu se sert de chacun de nous. Et ce qui compte, c'est les capacités de Dieu. Parce que nos capacités peuvent rapidement se casser la figure. Mais les capacités de Dieu, celles-là, elles ne se cassent pas la figure. Elles ne changent pas. Barnabas est quelqu'un de humble par rapport à son propre succès. Il savait que c'était l'œuvre de Dieu au travers de lui et rien de plus. Et c'est pour ça qu'il était assez humble et loyal pour se rendre jusqu'à Tarse pour y chercher Paul. Son propre succès, il le doit à Dieu. Je pense que c'est une façon aussi de fonctionner qui est importante dans notre vie. Notre propre succès, à qui nous le devons? À nous-mêmes, à nos capacités, ou est-ce que nous le devons à Dieu, à la grâce de Dieu? Dans quelques domaines que ce soit, hein, domaine de l'intelligence, de nos études, du travail, à qui est-ce que nous devons notre succès? À nous-mêmes ou à Dieu? Alors, l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. D'ailleurs, Barnabas est tellement intègre que Paul va l'envoyer en Judée pour une aide financière des chrétiens. Dans Actes 13, Paul et Barnabas sont appelés par le Saint-Esprit à devenir missionnaires en Pisidie, en Lyconie et en Pamphylie. Rapidement, on voit que c'est Paul, parce qu'au départ, c'est Barnabas qui est là. Mais Barnabas va laisser la place à Paul et il va laisser Paul agir. Et Barnabas a mis Paul sur les rails, hein, de son appel. Il l'a intégré à l'église, accompagné. Mais il n'a pas maintenu Paul dans une dépendance. Il l'a rendu libre. Et Barnabas a laissé Paul s'envoler. Quel magnifique exemple, n'est-ce pas? Je me pose la question, je nous pose la question, est-ce qu'on a envie de devenir le second de quelqu'un? Est-ce qu'on a envie de devenir le second de quelqu'un? Se mettre derrière quelqu'un et l'aider? C'est une bonne question, non? On a besoin de Barnabas, hommes et femmes. Des chrétiens, des chrétiennes qui savent travailler aussi dans l'ombre, qui encouragent, qui exhortent, qui sont positifs, qui aident, qui soutiennent, qui ont compassion des plus faibles, des plus fragiles, qui savent s'arrêter pour secourir les gens qui sont meurtris, qui sont blessés, qui sont tombés sur le bord du chemin, qui ont été agressés, dépouillés, comme dans la parabole du bon samaritain. Hein? Quel que soit notre environnement, les occasions d'encourager, hein, ne manquent pas. Et comme je disais au début, il ne s'agit pas de flatter hypocritement les gens, mais simplement de distribuer un peu d'amour, des échantillons par-ci, par-là. Un encouragement sincère qui donne de la force, du peps, qui affermit l'autre, qui l'aide à progresser, à ne pas lâcher. Alors, il n'y a pas de formule toute faite ni de mot magique pour encourager, mais le proverbe affirme que les paroles du juste sont source de vie. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Saül a eu besoin de l'intervention de Barnabas pour aller plus loin. Il a eu besoin de quelqu'un pour l'intégrer au sein de l'Église. Vous n'avez pas eu déjà besoin de quelqu'un pour légitimer quelque chose, votre présence quelque part? Vous exhorter à aller plus loin? Je pense que moi, en tout cas personnellement, j'ai eu besoin de ça. Mais j'ai reçu l'aide d'encourageurs. Des personnes qui avaient reçu une parole de Dieu ou des personnes qui, selon le cœur de Dieu, m'ont aidé à aller plus loin. Vous savez, Jésus n'a pas formé des disciples de la morale, sévères, négatifs. Il a établi des apôtres de l'amour, constructifs. Des motivateurs, des gens qui enthousiastent, des hommes forts et capables de fortifier leur prochain. Alors juste, je termine par ça, que Dieu fasse chacun de nous des Barnabas. D'accord? Que Dieu nous donne cet esprit d'encouragement. Et si on en manque, qu'on lui demande qu'il nous donne plus d'esprit d'encouragement. Ça fait du bien d'être encouragé. On peut se faire vraiment du bien de nous encourager les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Seigneur, merci pour l'encouragement que tu es déjà toi pour nos vies. Je te prie vraiment pour que tu nous aides aussi à être encourageant pour ceux qui cheminent avec nous, ceux que l'on côtoie, semaine après semaine, jour après jour, année après année. Ce n'est pas dans notre nature d'être encourageant, Seigneur, et encore moins dans notre culture. Donne-nous d'être des distributeurs automatique d'échantillons de ta personne. Nous te le demandons au nom de Jésus.